Le débrief 100% hack, le podcast sur l'actualité du Havre en Ligue 1.
Quand on est au pied du mur, avec son baudrier, avec ses cordes, bah soit on décide de grimper et on se dit « Allez, même si c'est dur, même si je loupe une prise, j'avance. » Ou alors, ben, on fait comme quelquefois dans le football amateur, on reste au pied du mur, on dit « Ah non, la montagne, elle est trop grande. »
Hello les amis, ne zappez pas, on ne parle pas escalade, mais bien football dans votre débrief 100% hack. La métaphore que vous venez d'entendre, elle est signée Maxime Diliberto, le coach de l'équipe féminine qui est à l'honneur de ce nouveau numéro. Un même adversaire pour nous aussi, les Marines, garçons et filles, ce week-end, Reims, et un même score, défaite 3-0. À mes côtés pour en parler, j'accueille Luc Gallet du Courrier Cauchois et Mathieu Billot de Foot Normand. Bonjour à tous les deux.
Bonjour tout le monde.
Salut.
Et deux invités à notre micro aujourd'hui, Laure Lepailleur, la manager générale de la section féminine du HAC. Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et Romane Anguard, capitaine du HAC. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à toutes les deux. Avec vous, on va revenir donc sur ce début de championnat compliqué en Arkema Première Ligue, un championnat désormais professionnalisé. On vous demandera ce que ça change et ce qu'il reste encore à faire. C'est parti pour le débrief 100% HAC numéro 5.
L'arbitre, j'en parlerai pas. Faudra qu'il rende lui des comptes et après on verra, mais moi, j'en parlerai pas. Ouais, c'est dur à accepter parce que les joueurs, ils ont produit beaucoup de choses. Ils ont, je pense, jamais eu autant d'allant offensif. Beaucoup de situations, de coups de pied arrêtés, mais malheureusement, on n'a pas marqué ce but qui aurait pu faire tourner les choses. Et on a surtout payé cash chaque sortie de Reims, donc c'est dur. Un contenu global très intéressant et pourtant une lourde défaite.
Et avant de parler des filles, un mot donc des garçons, défaite 3-0, dur à avaler, dit Didier Digard et ses hommes donc en Ligue 1 face à Reims, coaché par un certain Lucas Elsner qu'on connaît bien évidemment au Stade Océane. Les supporters espéraient une confirmation confortée par la victoire face à la Lanterne Rouge Montpellier. Il n'en a rien été, des Havrais vaillants malgré tout, mais des Rémois plus efficaces devant le but et surtout une double expulsion dans le staff Ciel et Marine, l'entraîneur Didier Digard et le coach des gardiens Nicolas Douchez. D'abord, peut-être, mesdames, un commentaire sur ce match. Laure, vous étiez au stade.
Oui, bah, c'est vrai. Et je pense que Didier Digard le dit. J'ai trouvé un très bon début de match de la part des Ciel et Marine. Et malheureusement, c'est aussi un peu ce qui fait défaut chez les féminines. Cette efficacité dans les premières minutes où il y a des vraies occasions. Et ça peut faire tourner le match en la faveur des Ciel et Marines. Et puis derrière forcément des atouts offensifs du côté de Reims qui sur des phases de transition ont fait très très mal et notamment par les côtés. Mais on va dire que dans le contenu, il y avait des choses quand même qui restaient très positives pour les Ciel et Marines. Il y avait eu cette victoire face à Montpellier qui avait été en tout cas très très bonne pour l'état d'esprit de ce groupe. Une prestation qui reste quand même honorable sur ce match. Et en tout cas, il va falloir s'accrocher. De toute façon, on savait que la saison allait être difficile. On est dans cette saison difficile, mais le contenu reste encourageant.
Roman, on a entendu parler de l'arbitre, l'arbitrage. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus aussi?
Bah après, je pense que ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, que ce soit les joueurs, les arbitres. Après, ce qui me gêne un petit peu au niveau de l'arbitrage, c'est le manque de cohérence qu'il peut y avoir des fois entre les mêmes situations qui arrivent dans certains matchs et au final, elles ne sont pas forcément arbitrées de la même façon. Donc voilà, c'est plus ce côté-là qui me gêne, cette incohérence. On est venu nous expliquer, nous par exemple chez les féminines, on a eu Stéphanie Frappard qui est intervenue et voilà, il y a eu un échange, mais ça reste toujours de toute façon une interprétation qui est faite par un être humain et donc ça amène toujours du débat et c'est toujours compliqué. Mais c'est vrai que cette saison, on a l'impression que ça ne tourne pas en notre faveur et on aimerait faire tourner les choses parce que c'est sûr qu'on a besoin de ce coup de pouce.
Manque de cohérence, je crois que Mathieu, c'est aussi votre avis.
Ouais, alors moi je suis pas arbitre, hein, donc je prends pas les décisions, mais c'est vrai qu'on a assisté à deux matchs en l'espace d'une semaine contre Montpellier. Le HAC gagne 1-0 sur un pénalty suite à une faute de main dans la surface, justement un pénalty qui est accordé par Madame Frappard suite à l'intervention de la VAR. Et une semaine plus tard, il y a une autre main dans la surface contre Reims. Alors je crois qu'il y avait 3-0 à ce moment-là, donc ça aurait peut-être pas changé l'issue du match, mais c'est pas ça qui est important. Et là, du coup, il n'y a pas pénalty, il n'y a pas non plus visiblement la VAR n'interpelle pas l'arbitre. Voilà, donc C'est encore une fois, c'est où est la cohérence? Moi, pour moi, s'il y a pénalty contre Montpellier, il y a pénalty contre Reims. Et s'il n'y a pas pénalty contre Reims, ben, il n'y a pas pénalty contre Montpellier. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui génère de la frustration chez les acteurs, chez les supporters. Et bon, après, c'est la somme aussi qui s'accumule parce que voilà, l'expulsion, elle vient sur un contact qui n'est pas jugé illicite de la part du corps arbitral sur Christophe Perry. Bon, une minute plus tard, vous prenez le pion. Donc, visiblement, là, la cocotte minute a explosé chez Didier Digard, et malheureusement c'est rouge dès la 20e. Donc
et Nicolas Douchet aussi. Et puis surtout, là aussi sur cette action-là, il y a, jusqu'à preuve du contraire, je crois pas qu'il y ait eu non plus de visionnage de VAR, et enfin, la VAR n'est pas intervenue sur ce fait de jeu-là, alors qu'elle pourrait clairement, en plus il y a un but à l'issue de cette action-là. Donc ça commence à faire beaucoup. Quand on repense à tout l'historique du début de saison quand même, avec aussi Monaco, avec Paris,
Brest.
Et j'en passe.
Brest c'est vrai, surtout Brest d'ailleurs.
Je peux comprendre que la pilule commence à être un peu difficile à être digérée pour le staff à vrai.
Est-ce qu'il y a un risque peut-être de tomber aussi dans ce piège-là les arbitres, c'est pas l'adversaire.
On pourra demander, mais l'arbitrage, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas quand on est acteur du jeu. Donc on peut s'énerver, on peut pester, on peut même faire plus, mais malheureusement, visiblement, ça n'agit pas grand, ça n'a pas beaucoup d'effet. En tout cas, pas pour le moment. Le danger, j'imagine, quand on est acteur, soit joueur, soit coach, c'est de tomber un petit peu, de se faire un adversaire supplémentaire, j'ai envie de dire.
Ouais, mais c'est vrai que ça crée beaucoup de frustration quand il y a des erreurs d'arbitrage, et forcément quand on est dans une dynamique qui n'est pas forcément positive, on a l'impression que le sort s'acharne un peu contre nous. Maintenant, effectivement, l'arbitre fait partie du jeu, et faut pas non plus se chercher tout le temps des excuses. Nous aussi, on a eu pas mal d'erreurs d'arbitrage depuis ce début de saison, notamment ce week-end qui aurait pu faire basculer la rencontre plutôt en notre faveur. Parce que le premier but de Silke Meyer n'était pas du tout hors jeu.
Et c'était qui intervient 1-0. Juste avant l'ouverture du score.
Exactement.
Et moi, de votre côté.
Exactement, donc ça faisait 1-0. Minutes, ouais. Ça faisait 1-0 pour Le Havre. Et effectivement, la tendance serait inversée. Je pense que la lanterne rouge serait plutôt enfoncée sur l'aspect psychologique. Et peut-être nous, on aurait retrouvé un peu d'élan sur l'aspect mental. Maintenant, il ne faut pas non plus se cacher aussi derrière l'arbitrage. Des occasions, on s'en procure. Il y a aussi ce manque d'efficacité criant qui nous fuit, et c'est pas faute de continuer de le travailler au quotidien. On doit gagner en efficacité dans nos deux surfaces, parce que finalement les buts qu'on marque aussi sont parfois liés à des erreurs qui sont normalement facilement gommables. On doit progresser et gagner en maturité.
On n'a pas parlé sur le plan comptable, en tout cas pour les garçons.
Parce que malgré cette défaite de l'équipe de Didier Digard, il n'y a rien de perdu. Hein, on est qu'au tiers du championnat. Alors malgré une 17e place, forcément, mais il n'y a qu'un point de retard sur un groupe de trois équipes qui devancent le HAC. On a Saint-Té, Nantes et Angers. Et comme des fois la vie est bien faite, les deux prochains adversaires du HAC, c'est Nantes et Angers. Nantes à la Beaujoire dans deux semaines, car il y a trêve internationale chez les garçons le week-end prochain. Mmh. Et Angers dans trois semaines au stade Océane. Forcément, des confrontations directes contre des concurrents au maintien. Mmh. Il y a déjà eu le cas contre Montpellier. Ils l'ont emporté 1-0. Voilà. Ils ont prouvé qu'ils savaient le faire. Alors pourquoi pas ne pas le refaire, tout simplement.
Idem d'ailleurs face à Auxerre. Voilà. Pour le moment, face aux concurrents directs, le HAC a réussi à prendre ses points importants. Donc. Là, ça va être un premier quand même tournant dans la saison, ces deux matchs à venir. Ouais.
Gros enjeu. Peut-être avant de reparler de vous, l'équipe féminine, est-ce que là vous disiez, vous étiez au match, vous êtes venu voir, est-ce qu'il y a des connexions entre les deux équipes premières, entre guillemets, comment vous travaillez là-dessus, Laure Le Payeur?
Des connexions, forcément, des échanges, parce qu'on est aussi confrontés aux mêmes situations. Je pense que c'est un club qui doit se soutenir et s'entraider. Dans cette période qui est pour tout l'ensemble des équipes un petit peu complexe, donc je pense qu'il faut essayer de tirer le meilleur de chacun d'entre nous pour essayer d'avoir les résultats et rester dans l'élite pour les deux équipes.
Ouais, et puis on peut dire qu'il y a quelques connexions, je veux pas trahir, il y a des actions en commun. Roman, je crois que tu m'avais dit par exemple, tu avais fait une action avec Walid et la Jam. Il y a quand même au niveau de la com, du marketing, il y a des choses qui sont mises, il y a des passerelles en tout cas.
Oui, ça peut nous arriver d'avoir des événements en commun. J'étais allée dans un collège pour justement faire une petite émission de radio avec des collégiens et Walid. Donc oui, ça nous arrive de les croiser. Après, on essaye de se soutenir. Des fois, il y a des garçons ou des membres du staff qui sont présents à nos matchs. Nous, on essaye d'y aller quand on est disponible également. Donc voilà, il faut vraiment qu'on se soutienne parce qu'on vit un peu la même chose cette saison. Donc je pense que c'est hyper important de se soutenir et qu'on ne fasse qu'un face à cette petite difficulté, on va dire.
Allez, sans plus attendre, justement, on va se pencher sur vous, la section féminine, dans ce débrief 100% AC. Je le disais, même adversaire, même score ce week-end. Et un coach vrai, Maxime Diliberto, passablement agacé, on pourrait dire, après cette défaite 3-0 à domicile. On l'écoute.
L'engagement n'y est pas, on le sait, on y travaille. Après, il faut que certaines, je ne dirais pas ce que la manageuse a dit, c'est un peu vulgaire, mais à un moment donné, dans cette situation, il faut se serrer les coudes. Et quand on ne se serre pas les coudes et qu'on essaye de rejeter la faute sur les autres, eh ben, y a des choix à faire et on va étaler sur les deux prochaines semaines pour bien préparer Fleury, bien préparer l'Olympique Lyonnais et surtout essayer de répondre présent et se donner rendez-vous contre Guingamp et contre Strasbourg.
Je vous vois sourire toutes les deux, Laure Lepailleur, manager général. On a évidemment envie de vous demander ce que vous avez dit, Ophi, dans l'intimité du vestiaire.
Parfois, il y a des choses qui doivent rester dans le vestiaire. Celle-ci restera dans le vestiaire. Mais effectivement, quand on prend notre rencontre face au Stade de Reims, forcément, un match important dans cette course au maintien. J'ai pas particulièrement apprécié cette première mi-temps qui, effectivement, manquait d'engagement. J'avais cette sensation qu'on avait un peu la peur au ventre et qu'on n'arrivait pas à s'exprimer. Je parle toujours et régulièrement aux joueuses d'attitude. On ne pointe pas du doigt les erreurs parce qu'on fait tous des erreurs, mais c'est l'attitude que la joueuse doit avoir. L'attitude conquérante qui normalement caractérise notre club, de combativité, qu'on n'a pas retrouvée sur cette première mi-temps. La deuxième mi-temps, on est revenu avec des meilleures intentions, où on aurait pu revenir dans le match parce qu'on sentait que si on marquait ce but, on revenait à 2-1, on aurait pu inverser la tendance et faire douter cette équipe de Reims. Malheureusement, ça ne nous a pas souri. Derrière, forcément, on s'expose un peu plus. On n'est pas à l'abri de prendre un troisième but. Mais les intentions étaient meilleures dans cette deuxième mi-temps. Mais voilà, l'attitude doit être meilleure. Et comme je dis, c'est chacun à son échelle, que ce soit joueuse, staff, encadrement, doit se remettre en question et se dire à son échelle, qu'est-ce que je peux faire de plus pour aider l'équipe, parce que c'est bien de l'équipe qu'on parle. Il faut que chacun en fasse un petit peu plus pour atteindre nos objectifs.
Du coup, Laure, est-ce qu'on peut s'attendre à un discours plus musclé, alors de votre part, mais de la part du coach, de la part du staff, envers les joueuses? Alors, je parle en interne, hein, bien entendu, pour leur dire, maintenant on est peut-être un petit peu au pied du mur et il faut passer le cap supérieur pour essayer d'avoir les résultats qui nous permettront de se maintenir.
Le discours musclé, on va dire qu'il y a des périodes en fait pour avoir un discours musclé et un autre un peu plus apaisé. Aujourd'hui, il faut surtout faire passer le message qu'on a confiance en les joueuses, parce que ça c'est important et ça part du staff, ça part des joueuses elles-mêmes entre elles, d'avoir confiance en elles pour aller chercher des résultats, parce que forcément quand on est dans une spirale négative, bah, on a l'impression effectivement que tout est contre nous et qu'on n'y arrive pas, mais pourtant il manque pas grand chose. C'est de faire basculer un peu les scénarios de match en notre faveur. Si je reprends l'ensemble de notre championnat, c'est on est malgré que l'adversaire soit supérieur à nous, au Paris Saint-Germain, c'est nous qui avons les deux premières occasions. Et si on mène 1-0, ben on ne sait pas en fait ce qui peut se passer parce que ça donne un supplément d'âme. Et c'est ce qui nous avait souri face à Saint-Étienne, parce qu'en fait on avait concrétisé nos premières occasions et on s'était mis dans quelque chose d'ultra positif qui était bon pour le moral des joueuses. Et celle-là, en fait, aujourd'hui, on doit progresser, c'est qu'on doit être des tueuses dans les deux surfaces pour nous rendre en fait les matchs un peu plus faciles.
Oui, c'est ça. Moi, je rebondis sur le dernier match, mais c'est vrai qu'en plus, pour le coup, on parlait d'efficacité. Reims l'a eu, cette efficacité, malheureusement, contre vous, au pire moment, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est vrai que cette première mi-temps m'a laissé un peu perplexe aussi, ouais, sur le manque d'engagement, sur le manque de révolte aussi. Il n'y a pas eu de pressing, par exemple, aussi en face des Rémoises. Alors, elles ont eu tout le temps de relancer assez tranquillement depuis leur camp, sans être particulièrement menacées. Moi, c'est cette impression-là qui est ressortie en première période. Mais par contre, effectivement, en deuxième, il y a eu plus d'allant, il y a eu plus de propositions, tout simplement, de la part des Ciel Marines. Ça n'a pas, malheureusement pas suffi, mais voilà, on a senti quand même un début de révolte, notamment sur les 20 premières minutes de la deuxième période. Je ne sais pas si vous partagez le même avis.
Oui, si. Après, en règle générale, depuis le début de saison, on n'arrive pas à faire des matchs complets, parce que je pense aussi également au match de Dijon, le match qui précédait celui de Reims, où on perd 4-0 et dans les 10 dernières minutes, on est capable de marquer deux buts Et avec les 8 minutes de temps additionnel, je pense que si on marque le troisième, on leur met un très gros doute. On voyait dans l'attitude des Dijonnaises, c'était très compliqué. Donc je pense vraiment qu'on doit aussi être beaucoup plus concentré sur toute la durée du match et pas seulement sur une petite partie. Et c'est ça qui nous permettra d'aller gagner ces rencontres parce que, voilà, comme on le disait, que ce soit au PSG, même au Paris FC, où on en prend 8, la première occasion, elle est pour nous. Et après, on s'est pris des vagues, évidemment, mais... Il y a quand même des choses positives à retirer de ça et à partir du moment où on arrivera à mettre tout en place et que tout roulera, ben on arrivera à faire des matchs comme contre Saint-Etienne par exemple où ben on avait l'impression que tout était dans notre faveur, mais je pense qu'il manque vraiment pas grand chose et qu'il faut qu'on continue à y croire parce que la saison elle est loin d'être terminée et il y a encore de très belles choses à faire et voilà, c'est simplement y croire et rester focus.
Quand on parle d'engagement, de guerrière, je crois aussi, c'est le mot que Maxime Di Liberto a employé. Quand on est capitaine, forcément, on se sent aussi une responsabilité de faire passer encore plus, peut-être, ce message, Romane.
Oui, surtout que je pense que c'est dans les valeurs du club. Enfin, là, je suis dans ma 4e saison ici, mais j'ai énormément d'exemples depuis que je suis au club de matchs où on a réussi à changer des dynamiques comme ça, des rencontres qu'on pensait perdues et au final... on arrivait à revenir, alors voilà, donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui moi me tient à cœur de jamais abandonner, parce que je pense que c'est le match, tant que la fin n'est pas sifflée, il y a encore moyen de revenir, même si on est mal embarqué, donc voilà, j'essaye d'insuffler ça, après voilà, c'est des fois, c'est des petits scénarios de match qui vont pas, mais je pense, enfin j'ai confiance en ce groupe, et j'ai la certitude qu'on va réussir à faire changer cette dynamique.
Après, ces résultats, ils vous surprennent, j'imagine, pas totalement. Ils découlent aussi d'un mercato, d'un été où il y a eu pas mal de départs, des joueuses assez expérimentées. Vous avez beaucoup de jeunes joueuses, voire de très jeunes joueuses. On parle souvent des difficultés financières des garçons, mais on imagine que forcément, le club féminin, c'est pas un club à part, hein, c'est un club dans le club. Donc, s'il n'y a pas trop d'argent pour les gars, on imagine qu'il n'y a pas trop d'argent non plus pour la section féminine. Et qu'il faut composer aussi avec tout ça. Donc, que le HAC joue le maintien. Là, c'était la 7e journée, hein, c'est ça, si je me trompe pas. Enfin, j'imagine que vous, Laure, ça vous surprend pas non plus totalement.
Bah forcément, on a dû s'adapter sur ce mercato. C'était pas forcément celui qui était prévu. Il y a cette crise économique du football français, hein, dans sa globalité, avec un impact pas seulement sur une équipe, mais sur un club. Et les efforts, ils doivent être consentis par l'ensemble du club. Effectivement, on a un groupe jeune. Ça fait partie du projet d'en intégrer. Peut-être qu'on n'avait pas imaginé en intégrer autant cette saison, parce que même si on a des joueuses qui ont un fort potentiel, il y a encore la marche, elle est encore grande. Si je prends cette génération 2008, aujourd'hui, où on a des joueuses qui sont appelées régulièrement, soit dans les présélectionnés, et trois, ils vont régulièrement. Il faut savoir qu'il y a une saison, elle se découvrait le championnat U19. Donc passer du championnat U19 national à l'Arkema Premier League, forcément que le gap, il est assez important. On a aussi des jeunes joueuses qui sont des talents du club, comme Chancel Efa et Melinda Mendy, qui sont arrivées assez rapidement chez les seniors, mais ils sont aussi passés par une case seconde ligue, qui leur a permis aussi de s'aguerrir, parce que peut-être que le gap est un petit peu moins important. Mais voilà, malgré tout, on s'adapte, on fait confiance à ces jeunes, on essaye de les faire progresser. Et puis peut-être qu'à un moment donné, elles vont aussi nous faire basculer les rencontres, parce que dans ce match face au Stade de Reims, on avait quand même 3 2006 titulaires, une 2005. Dans ces 2006, on avait aussi Louise Klejewski, qui au demeurant a plutôt fait une prestation honorable pour sa jeune carrière. Donc voilà, on essaye de faire comme on peut. Et puis quand on ajoute aussi à ça des blessures, parce que dans cet effectif réduit, on a aussi des blessures longue durée, des ligaments croisés qui dataient de la saison dernière. En l'occurrence, Eva Kouach qui a fait son retour ce week-end, et Salomé Elisor qui arrivera dans un second temps. Laetitia Philippe qui fait partie de ces joueuses aussi expérimentées, qui est de retour de congé de maternité. Donc quand on a une réduction peut-être du nombre de contrats, quand on a aussi des joueuses qui ne sont pas toutes à disposition, c'est forcément dommageable pour l'ensemble du groupe. Et on espère que quand on aura récupéré tout le monde, ça redonnera aussi un second souffle, parce que finalement, c'est presque comme un recrutement, ces joueuses qu'on va pouvoir récupérer.
On précise juste que les filles comme Chancel Efa, Melinda Mendy, on entend parler depuis 2-3 ans, mais elles ont 18 ans.
C'est ça. Voilà. Chancel a eu 18 ans au mois de septembre et Melinda aura 18 ans au mois de décembre.
Elles ont un peu l'étiquette, enfin de l'extérieur, hein, peut-être pas en interne, mais de l'extérieur, on les considère presque comme des cadres qui doivent porter l'équipe. Bon, on parle de jeunes filles qui ont 18 ans. Alors dans le football féminin, ça joue jeune, ça joue plus jeune que chez les garçons. Ça n'en reste pas moins des jeunes filles de 18 ans. Et une carrière, c'est pas linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas, surtout quand vous êtes jeune et elles n'ont pas atteint leur niveau de maturité footballistique. On imagine forcément aujourd'hui, il y a encore besoin de temps.
Oui, puis surtout parfois une sursollicitation aussi de ces jeunes joueuses. Mmh. Là où on est peut-être un peu plus précautionneux cette saison, Melinda Mendy qui n'a pas vraiment fait de préparation estivale parce qu'elle a participé au Mondial. Alors ça, libre choix au club de laisser participer sa joueuse à la Coupe du Monde du 20 parce que ce n'est pas une date FIFA. Je pense que c'est, en termes d'expérience, très bon pour une joueuse de participer à une Coupe du Monde. Mais derrière, forcément, une joueuse qui peut accuser le coup sur ce début de saison, on sait qu'on compte sur elle, mais à un moment donné, ce n'est pas aussi un robot. On a aussi Chancel Efaefa qui a eu peut-être quelques petits pépins physiques la saison dernière, donc on a dû gérer sur cette préparation estivale, parce que l'objectif, c'est pas de griller ces joueuses. L'objectif, c'est qu'elles puissent continuer de progresser, et puis à un moment donné aussi de faire gagner l'équipe, et pour faire gagner l'équipe, il faut aussi en avoir la bonne gestion.
Vous parliez de l'équipe de France, il y a beaucoup de joueuses hein, du HAC qui ont une expérience internationale, en tout cas avec le maillot bleu, ça apporte, alors évidemment il y a ces contraintes qu'on vient évoquer, mais néanmoins j'imagine que voilà, ce sont des expériences hyper importantes pour ces joueuses, et on peut poser la question aussi à Roman.
Oui, c'est sûr que c'est des super expériences de jouer pour la France, ou même bah, on a d'autres internationales, mais c'est certain que oui, quand je pense à Melinda, c'est quand même bah, un calendrier. À chaque trêve, elle part en sélection. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut aussi savoir se gérer. Et je pense qu'elles sont assez jeunes. Donc, il faut aussi que le staff et la direction, entre guillemets, en prennent soin. Après, oui, évidemment. Enfin, moi, de mon côté, toutes les expériences en sélection, ça a été vraiment top. Hein, toutes les compétitions, même les matchs amicaux, c'est toujours bon à prendre de se confronter à d'autres pays, de voir ce qui se fait ailleurs aussi. Donc non, moi, j'en ai tiré que du positif.
Ça apporte de la maturité à ces joueuses-là aussi
L'expérience internationale, c'est toujours important dans une carrière, même si ça reste parfois que sur les équipes de jeunes. Mais c'est important de se jauger aussi avec les joueuses de sa génération pour voir où on en est. Et peut-être petite précision, parce que Melinda Mendy est une 2006 et a participé à la Coupe du Monde, et c'était normalement les 2004-2005 qui étaient concernées. Mmh. Donc c'est une joueuse qui a été aussi surclassée. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi faire attention. Alors parfois on n'est pas forcément tout le temps d'accord avec les sélections sur la gestion des temps de jeu, parce que malgré tout c'est une joueuse qui appartient au club, et on y travaille. En tout cas, on a justement reçu la visite du nouveau sélectionneur qui fait le tour des clubs pour qu'on discute un petit peu de nos jeunes talents, qu'on voit un petit peu la stratégie en matière de formation qu'on met en place. C'est des échanges assez enrichissants où je pense qu'il y a une vraie volonté de continuer à développer notre football féminin.
Ouais, je reviens un petit peu en arrière, hein, parce que voilà, c'est aussi marqué forcément l'actualité de ces derniers mois, on va dire, sur la section féminine. Il y a eu quand même un changement d'entraîneur à l'été dernier. Maxime Diliberto qui a succédé à Romain Djoubry. Moi, je veux une petite question quand même à la manager de la section. Mais voilà, quelles ont été un petit peu les raisons, les motivations de ce choix, de ce changement d'entraîneur, sachant que vous étiez resté sur une 9e place à l'issue de la saison passée en DR Arkema.
C'est une question après de conduite de projet. Voilà. Et puis peut-être de divergence d'opinion à un moment donné. Je ne m'étendrai pas plus sur la question. Et après, pourquoi le choix de Maxime Diliberto? C'est parce que justement, dans le contexte qu'on avait avec l'intégration de beaucoup de jeunes, c'était important d'avoir cette connaissance du club, cette connaissance du football féminin, qui malgré tout demeure quand même quelque chose d'important dans la gestion d'un groupe. Et puis de faire ce relais aussi avec notre équipe U19 qui aujourd'hui est notre équipe réserve, hein. Ouais. De pouvoir avoir ces échanges, ça c'est important.
Il faut rappeler que voilà, Maxime Diliberto dirigeait le pôle formation de la section féminine, donc il avait ce regard forcément assidu sur les jeunes joueuses, les jeunes générations appelées à intégrer l'équipe au fur et à mesure des mois aussi forcément.
Tout à fait.
Quand on prend une décision comme ça de changer un coach, qui est forcément une décision importante à l'échelle d'une équipe, on parlait des passerelles avec les garçons, est-ce que vous en discutez avec par exemple Mathieu Bonnemer, est-ce que vous en discutez avec le président président.
Ah, forcément.
Non, mais c'était vraiment une question.
Forcément, de toute façon, tous les sujets sont évoqués avec le président et la direction sportive. Il n'y a pas, de sujet traité.
Il n'y a pas de club dans le club.
Exactement. Tous les sujets sont forcément traités avec la direction du club.
Non, mais tout à l'heure, on parlait des passerelles et éventuellement. Mais là, c'en est une concrète, du coup. Sur les sujets stratégiques pour le club. On parle de Maxime Diliberto, on parle des jeunes. L'actualité du HAC du côté des féminines, elle a été aussi marquée cet été par l'ouverture du centre de formation. Donc chez les garçons, ça paraît quelque chose de logique, puisque tous les clubs professionnels, enfin quasiment tous, en sont dotés d'un, qui est agréé par la Fédération France de Foot. Chez les féminines, c'est loin d'être le cas. Je crois qu'il n'y a que 5-6 clubs qui en ont, et c'est souvent les très très grosses structures, Lyon, PSG. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que l'agrément de ces structures va changer au niveau de la section féminine du HAC?
Alors déjà, c'était une ambition du club de travailler la saison dernière pour cette ouverture. Déjà, pour la raison que vous invoquez, la formation fait partie de l'ADN du club. Donc c'était assez logique, en fait, de se tourner vers cette formation. Aujourd'hui, il faut accepter qu'on soit aussi un club intermédiaire. Donc, à un moment donné, on va devoir s'appuyer sur cette formation pour créer les joueuses de demain. Que ça change fondamentalement, c'est qu'on peut protéger davantage notre formation, parce que vous doutez bien que quand on met une joueuse sous convention de formation, ça nous permet de ne pas l'avoir débarquée, je ne sais pas, par exemple au Paris Saint-Germain, qui n'est pas très très loin d'ici. Voilà, ça permet aussi d'essayer de conserver nos joueuses. On a pas mal de Normandes, parce qu'on reste aussi dans cette volonté de développement du football de notre région. Le recrutement, il est essentiellement d'abord axé sur la Normandie. Et derrière, quand on en a la possibilité, et ça c'est un peu le jeu du recrutement sur les interligues, c'est d'essayer aussi de trouver des joueuses qu'on n'aurait pas forcément à certains postes pour trouver un équilibre de génération et pouvoir les accompagner en équipe première. Et puis peut-être que sur la durée, ça aura un avantage économique si on arrive à former nos joueuses. Peut-être qu'on aura aussi besoin d'aller chercher moins de joueuses en matière de recrutement sur l'équipe première.
Donc là, les jeunes joueuses vont pouvoir signer, si vous le souhaitez, des contrats à l'image des garçons.
Alors, le fonctionnement, il n'est pas encore hyper au point. Aujourd'hui, les joueuses...
À l'avenir, on va dire, en tout cas.
À l'avenir, il y a un travail qui est opéré là-dessus, parce qu'aujourd'hui, nos joueuses signent une convention de formation qui la lie au club, qui va de 1 à 3 ans.
Qui a valeur de protection, du coup.
Voilà, de protection.
Juridique, entre guillemets.
Oui. Mais aujourd'hui, qui comporte aussi malgré tout quelques fragilités, parce qu'on reste essentiellement sur du franco-français par rapport à ces conventions. Mais il y a un travail qui commence à être opéré pour essayer de rentrer après dans un système qui sera un peu similaire à celui des garçons. On va dire que chaque chose en son temps, il y a cette ouverture des centres de formation, qui est quelque chose de nouveau. C'est les premières saisons, c'était l'année dernière. Là, il y en a d'autres qui ont ouvert cette saison, le LOSC et Dijon. Comme le Havre. Donc voilà, c'est quelque chose qui se met en place. Donc tout n'est pas parfait au départ, mais il y a cette vocation à vouloir travailler sur notre formation, parce que quand on regarde aussi un petit peu nos résultats de sélection nationale, c'est quelque chose qui demeure très important de travailler sur les jeunes, parce que c'est probablement ces joueuses-là qui alimenteront l'équipe de France A dans le futur.
Et on parle de combien de filles aujourd'hui dans ce centre de formation et voilà.
Aujourd'hui, la réglementation oblige, on va dire, d'avoir 30 joueuses sous convention de formation et un maximum qui est donné de 50. Voilà. Peut-être règlement qui sera peut-être revu, parce que si on regarde un peu le modèle de notre club, où c'est une volonté que notre équipe U19 soit considérée un petit peu comme notre équipe réserve. Alors que parfois, dans d'autres clubs, il y a des équipes réserves qui peuvent jouer en Détroit, jouer en régional. Au nombre d'équipes, je pense que ça paraît intéressant peut-être que de jauger un petit peu, de revoir le nombre de joueuses sous convention obligatoire.
Et si on peut comparer, car Romane, tu as aussi un parcours de formation qui date de pas si longtemps que ça, j'ai envie de dire, pour que les choses évoluent. Tu as fait notamment le pôle espoir à Rennes.
Oui, hein, voilà. Bah, c'est ce que j'allais dire quand on parlait centre de formation. Je pense que c'est vraiment une bonne évolution, parce que quand on était au pôle espoir, alors c'était une super expérience pour moi, le pôle espoir, mais c'était au niveau du lycée. Et je pense là, le fait de basculer les pôles, c'est en troisième, quatrième au niveau collège. Et je pense que c'est une bonne chose, parce que je trouvais que c'était assez tardif de faire ce cursus au niveau du lycée. Les jeunes joueuses, elles ont besoin de se développer au niveau du collège, comme c'est le cas chez les garçons. Donc, et après, en arrivant au lycée, d'être en centre de formation, d'être avec les filles avec qui tu joues le week-end, c'est hyper important parce que c'est vrai que nous, quand on allait au pôle espoir la semaine et que le week-end, on allait jouer avec nos équipes, moi en l'occurrence à La Roche-sur-Yon, c'est vrai que ben, on ne s'était pas entraîné du tout de la semaine avec ces filles-là. On arrivait, on ne connaissait pas forcément le projet de jeu qui allait être mis en place le week-end. Donc c'est vrai que ça a créé un petit décalage avec les autres. Et donc non, je pense que c'est vraiment une très bonne évolution d'avoir mis ça en place. Et il faudra voir comment ça fonctionne au fur et à mesure des années parce que c'est tout nouveau, mais... Je pense vraiment que, bah, de mon côté, je trouve que c'est positif.
Ouais. Ça peut donner plus de repères, voilà, pour les jeunes joueuses, justement, qui ont besoin de ça, justement, pour grandir, non ?
Oui, tout à fait. Bah, ça permet de structurer, d'être prise en charge beaucoup plus tôt, parce que c'est vrai qu'il y avait des sections sportives au niveau collège, mais ce n'était pas du niveau national, entre guillemets. C'était un peu moins cadré. Donc là, le fait que ça entre dès la troisième et la quatrième au collège, bah, c'est un plus et ça va permettre de faire évoluer les jeunes filles plus rapidement, je pense.
On Mathieu. Parle beaucoup de ces jeunes joueuses, donc beaucoup qui sont internationales. On a parlé de Melinda Mendy, Chancel Efaefa. C'est qui les prochaines, on va dire, à surveiller de près ? Tout le monde peut donner.
On en voit déjà certaines quand même voilà. Cette saison. Hein.
Là, on a une longue liste.
Voilà. Non, je dis, effectivement, on a la génération 2008. On a des joueuses qui sont appelées régulièrement. On a une locale, une autre locale, Thaïs Gallet, qui effectivement aujourd'hui peut-être accuse un petit déficit encore sur le développement athlétique, mais qui par contre présente des qualités footballistiques hyper intéressantes pour le haut niveau, avec elle pour le coup cette efficacité qu'elle a souvent chez les jeunes, et des déplacements qui sont très intéressants sur le front de l'attaque. Et comme Chancel, c'est numéro 9 et les numéros 9, c'est assez rare. Donc nous, on peut se réjouir en tout cas d'avoir deux joueuses à ce poste-là qui sont prometteuses. Ensuite, on avait des joueuses qui avaient intégré cette formation comme Luna Laboukari qui est appelée régulièrement sur la sélection U17, Emmy Lefebvre qui est aussi une Normande. Originaire de l'AG Caen, qui a joué à l'AG Caen, qui est une joueuse qui paye pas de mine, mais qui travaille beaucoup, un peu un travail de l'ombre, qui vient gratter des ballons et ça plaît beaucoup à la sélection. Donc voilà, c'est des profils avec lesquels on travaille, mais il faut aussi être patient parce que ça reste néanmoins que des U17. Donc il y a aussi sur l'aspect athlétique, rester précautionneux pour pas les griller à l'avenir.
Roman, est-ce que tu as quelques noms aussi de jeunes coéquipières. On précise que Romane, elle a 25 ans. Hein. On en parle, on a l'impression qu'on en parle, elle a 35.
Ouais, mais on a quasiment 10 ans d'écart. Maintenant, quand je me rends compte de ça, je me dis waouh.
Une claque.
Ouais, un petit peu, ça met une claque. Mais non, je pense, oui, évidemment, là, sur les derniers matchs, Thaïs. Après, on a aussi Luna, Laboukari. Maëlle Doré, qui n'a pas encore non plus été dans le groupe. Mais c'est des jeunes joueuses qui, pareil, sont appelées... En sélection et qui sont prometteuses. Après, elles sont tellement nombreuses que... Ouais, il y a Talila, Seka, c'est son nom de famille, voilà. Pareil, qui s'entraîne tous les jours avec nous. Enfin, Léane Le Dauphin, elles sont tellement nombreuses à être avec nous. Donc, c'est bien. Au moins, ça amène un peu de vie, un peu de jeunesse. Et il faut qu'elle nous pousse encore plus pour que ça stimule un peu... que ça stimule tout le monde.
Est-ce que tu as un rôle auprès d'elle ? On rappelle que tu as été nommé capitaine cette saison. Est-ce que tu as un rôle, entre guillemets, de cadre, de conseil ?
Bah, j'essaye de les encourager comme je le fais avec tous les autres membres du groupe. Après, voilà, c'est sûr qu'elles sont à l'écoute, mais après, elles sont nombreuses. Donc au final, j'ai pas l'impression que ce soit trop compliqué, on va dire, d'intégrer le groupe senior. C'est vrai que ça pourrait être le cas si elles étaient qu'une ou deux. Voilà, il faudrait y faire vraiment, vraiment attention pour essayer de les intégrer au maximum. Mais là, c'est vrai qu'elles sont quasiment une dizaine sur les entraînements. Donc je pense que ça leur facilite aussi la tâche d'être avec des coéquipières des équipes jeunes. Donc non, après, c'est la même chose pour tout le monde. Essayer de les encourager, leur donner des conseils quand il y a besoin. Mais il n'y a pas une attention particulière. Je pense qu'elles se mettent rapidement... au niveau.
Des conseils d'anciennes.
Ouais. Pas de prise de tête sur la playlist dans les vestiaires, non, ça va.
Ah, ça, c'est vrai que ça peut être un élément qui change. Moi, je connais pas leur musique vraiment. À chaque fois, je me dis non, s'il vous plaît, mettez un petit peu de musique un peu plus ancienne, parce que là, vraiment, ce qu'elles mettent, je connais rien du tout.
voilà, le temps passe vite. Hein. On parlait de la création de ce centre de formation, on va aussi parler peut-être de la création de la Ligue professionnelle de football féminin, je ne sais pas comment, L2FP, c'est ça, ouais, hein, comme c'est ça qu'on
exactement.
Dit
exactement.
Le payeur, qu'est-ce que ça change là aussi on peut se dire enfin.
Enfin, c'est une amorce en fait pour pouvoir continuer le développement du football féminin. Forcément, ça s'est accéléré, peut-être que ça aurait dû être opéré il y a déjà quelques années. C'est un bon point de départ parce que malgré tout, la Ligue aide les clubs. Et il faut savoir quand même qu'il y a maintenant des obligations qui sont demandées aux clubs, au même titre que chez les garçons, de respect de cahier des charges liés à une licence club, qui derrière, forcément, nous permet aussi d'être accompagnés par cette Ligue. Donc, c'est des budgets qui sont quand même importants pour notre section. Donc ça aide à la structuration. Nous, la ville nous aide aussi sur nos infrastructures parce qu'on va bientôt déménager de Gagarine. Et intégrer le stade Pelé qui en plus est en proximité du stade Océane. Donc ça nous donnera aussi un bel outil de travail pour notre équipe première et la formation.
Le nouveau stade du quartier Graville.
Exactement, exactement, qui est un bel outil qu'on a revisité la semaine dernière et on prendra possession des lieux dans une semaine.
C'est ça, sous peu.
donc ça c'est quelque chose de positif d'avoir aussi une infrastructure, on va dire, un petit peu plus resserrée ou un peu plus intimiste qui va nous permettre de continuer à travailler. Donc il y a toutes ces avancées qui aident à la structuration du football. Alors des fois c'est vrai, on aimerait qu'il y ait encore plus. Mais c'est quelque chose d'important. Alors même si on aimerait avoir un petit peu plus d'affluence, le stade Océane est malgré tout un outil de travail forcément hyper prestigieux pour notre équipe première de jouer dans cette enceinte. Maintenant, on aimerait aussi avoir des meilleurs résultats parce qu'on sait aussi très bien que cette dynamique, elle se crée d'affluence, elle se crée par les résultats. Alors, en tout cas, on va essayer de travailler pour qu'à un moment donné aussi, on arrive à attirer davantage de supporters dans cette enceinte.
Est-ce que vous êtes toujours l'un des rares clubs à jouer dans la même enceinte?
Alors,
ou est-ce que ça évolue?
Alors, ça devient pas aussi rare que ça, parce qu'il y a des clubs qui font beaucoup d'efforts, sachant que de toute façon, chaque saison, il y a des obligations qui sont données par la L2FP. On doit faire des affiches dans des enceintes, dans des grandes enceintes. On doit jouer dans des stades qui sont catégorisés, T2 minimum, stade Océane et T1. On a vu cette saison un record d'affluence qui a été opéré du côté de Nantes avec une forte mobilisation en fait de leur territoire pour essayer de battre un record. Et puis je pense que c'est très bien parce que ça devient moteur en étant justement dans ce comité directeur de la L2FP. Ça a donné aussi envie à d'autres clubs de battre ces records. Donc voilà, c'est un petit peu des enjeux.
C'est un challenge intra-club.
Des challenges qui commencent à s'opérer et je trouve que c'est plutôt positif.
Oui, et puis de toute façon, au Havre, il y a aussi rattrapé par les infrastructures, parce que si vous ne jouiez pas au stade Océane, où c'est que vous pourrez jouer? La réponse est nulle part.
On se délocalise beaucoup plus loin.
Voilà, mais c'est une réalité aussi du territoire, malheureusement, Havre, même Seine-Marin, avec un manque d'infrastructures. Donc, heureusement qu'il y a ce stade Océane qui est mis à disposition des féminines, parce que sinon, ça c'était une volonté, je pense, j'allais dire du président Volpé, du propriétaire Vincent Volpé.
De l'époque du président, en tout cas.
Pour donner aussi une certaine visibilité à sa section féminine. Et aujourd'hui, on est très content.
Et Roman, c'est vrai que le stade sonne un peu creux, on va pas se mentir, c'est une enceinte qui fait 25 000 places, je crois. Est-ce que malgré tout, on y voit toujours que les côtés positifs, c'est-à-dire de jouer dans une belle enceinte, dans un beau stade, même si ça sonne un peu creux, ou est-ce qu'à force, malheureusement, peut-être que le côté négatif du fait du manque d'affluence prend un peu le dessus?
Évidemment qu'on aimerait que le stade soit plus plein. Il y a beaucoup de choses où nous, on pourrait faire mieux sur le terrain pour attirer plus de monde, comme le disait Laure. Mais après, voilà, il y a plein d'autres choses qui pourraient être faites pour le remplir. Mais c'est vrai que pour moi, c'est toujours autant un plaisir de jouer à Océane. C'est le terrain, la pelouse, elle est de qualité. Enfin, franchement, en France, alors il y a d'autres clubs qui s'y sont mis à jouer dans les stades de, comme Dijon, par exemple. Mais c'est vrai que je trouve que Océane, il est quand même top. On se sent vraiment chez nous. Donc non, je vois toujours le côté positif, même si, évidemment, on aimerait plus le remplir.
Pour le remplir, je viens de penser à ça. Est-ce que vous seriez favorable à la gratuité des matchs féminins? Je crois que le Paris FC l'a fait, on est bien d'accord.
Oui. Enfin, sur l'ensemble des équipes, d'ailleurs.
Ils ont fait garçons et filles, voilà. Mais est-ce que vous... Je sais qu'il y a plusieurs écoles, il y en a qui sont totalement contre. Est-ce que vous seriez prêt à dire, nous, nos matchs féminins, on les met en mode gratuit?
Alors, pour ma part, en fait, gratuit ou pas gratuit, du moment que les gens puissent venir, ça dépend de la stratégie, en fait, qui sont opérées par les clubs. Moi, c'est pas mon domaine.
Mais si on vous demandait votre avis...
C'est pas mon domaine. On va dire que peut-être que si on prend l'exemple du Paris FC, où on a un stade Charletti qui est au cœur de la ville, donc effectivement, il y a toujours pas mal de monde qui gravite autour du stade, donc ça permet en fait de faire entrer peut-être juste sur la découverte. Aujourd'hui, le stade Océane, tout le monde le connaît dans notre enceinte. C'est vrai que peut-être que la gratuité peut amener à créer cette fidélité et derrière avoir une stratégie peut-être où... On pourrait revenir sur du payant et puis aussi peut-être aussi un travail à opérer pour aussi les licenciés du football, tout simplement pour qu'il y ait ce côté.
Inviter des licenciés.
Voilà. On le fait, fait. Après, il y a toujours ces problématiques que l'on peut rencontrer. Il y a les horaires de match qui parfois, alors cette saison, ça a changé. Parfois, ça peut être un frein. Malgré tout, il y a des retombées plutôt positives sur les affluences avec le match de 17h. Je parle sur l'ensemble de l'Arkema Première Ligue. Ils ont aussi retiré l'affiche canal du dimanche soir 21h qui permettait pas forcément d'avoir du monde parce que les familles peuvent pas se déplacer. C'est dimanche, on reprend l'école le lundi. Donc pour l'instant, les horaires qui ont été choisis, ça a plutôt des retombées positives sur les affluences globales sur l'Arkema Première Ligue.
Ouais, parce qu'il y a vendredi soir, il y a samedi 17h,
et samedi soir 21h.
Voilà, c'est ça, ouais.
On parlait de ce, peut-être ce qui reste aussi à faire avec cette professionnalisation et notamment sur l'aspect peut-être social. Tout à l'heure, on parlait de Laetitia Philippe, par exemple, qui vient d'avoir un bébé. Ben voilà, c'est aussi ces enjeux-là qui sont derrière la Ligue de foot pro.
Alors effectivement, la convention collective n'a pas été signée, mais malgré tout, il y a une reconnaissance patronale qui a été signée. En amont du début de cette saison-là, où tous les clubs d'Arkema Première Ligue et de Seconde Ligue se sont accordés sur un certain nombre d'avancées, et notamment sociales, dont Laetitia Philippe a pu aussi bénéficier, qui est notamment liée au congé de maternité. Donc ça, c'est des choses qui ont été opérées directement par les clubs, parce que le dialogue social a pris un peu de temps pour finaliser cette convention collective. Je pense qu'on n'est pas loin. A priori, on n'est pas loin. Il y a encore quelques discussions parce qu'il y a toujours un peu, toujours des points de désaccord. Il faut que l'ensemble des syndicats se mettent d'accord sur cette convention qui peut-être aura vocation à un moment donné à évoluer. Mais je pense que, je l'espère, que d'ici la fin de saison, ou j'espère d'ici la fin d'année, on arrivera à signer cette convention collective qui a pour vocation à protéger aussi les joueuses et voir leur statut évoluer.
Un statut qui pourra devenir professionnel sur le papier. Aujourd'hui, la plupart, toutes les filles d'ailleurs qui jouent en D1 Arkema comme Roman, elles vivent de leur activité football, elles s'y consacrent quasiment entièrement, mais elles n'ont pas le statut professionnel, sauf erreur de ma part.
Fédéral,
voilà, comme on peut le trouver. Ça peut changer quand même certaines choses, même pour les clubs, je me trompe pas, ça peut être plus avantageux de faire signer des contrats pro que des contrats fédéraux, et après pour les joueuses aussi.
Déjà, ce qui dit contrat professionnel, c'est je pense qu'il y aura aussi le règlement qui viendra en corrélation avec ce contrat professionnel. Aujourd'hui, ce contrat fédéral, il est aussi proposé dans d'autres divisions du football masculin.
National 2, National 3 notamment.
Exactement. Et par exemple, si on doit faire évoluer comme par exemple les commissions d'arbitrage, les commissions de discipline, c'est des choses qui sont sur discussion pour créer en fait quelque chose sur cette ligue professionnelle féminine pour que ça puisse bénéficier finalement à tout le monde.
Petite question peut-être.
Ouais, je vais juste terminer. Est-ce que ça aurait une portée particulière de se dire de signer un contrat pro ou pas spécialement?
Pas spécialement. Après, oui, s'il y a des avantages par rapport...
Mais la symbolique.
Oh, la symbolique.
Non,
pas spécialement parce que... J'ai le sentiment... c'est mon métier, je fais que ça. Donc là, Non, je n'ai pas le sentiment. Après, d'avoir contribué peut-être à que cette convention collective soit signée, à que cette ligue elle soit mise en place, oui, ça peut-être, mais contrat pro, j'ai déjà le sentiment que c'est mon métier et voilà, c'est pas un papier entre guillemets qui changera quelque chose.
Justement, Roman, il ressemble à quoi le quotidien d'une joueuse de D1 féminine, justement ? Toi, quel est ton quotidien ?
Ça dépend des semaines et de la programmation des matchs, mais en tout cas, c'est des entraînements, beaucoup d'entraînements, c'est normal. Après, évidemment, les journées, si on n'a qu'un seul entraînement ici au Havre, à 11h, ma journée, elle est terminée. Donc c'est pour ça aussi qu'on peut, évidemment, faut qu'on se repose, mais qu'on peut pas dire qu'on est surchargé. Là, une semaine typique, on a 2 jours où on double. Donc voilà, ça fait...
Il y a un entraînement le matin, un entraînement l'après-midi.
C'est ça, exactement. Avec des séances qui peuvent être soit en salle, soit sur le terrain. Et ensuite, on part en déplacement, soit sur la journée, soit sur 2 jours, en fonction des... Après, j'ai vu que là, j'ai vu par exemple Dijon qui disait que maintenant, il ferait les déplacements que sur une journée quand c'était possible parce que financièrement, c'était pas possible. Donc, ça montre aussi qu'il y a certains clubs qui sont dans les mêmes difficultés financières que nous. Donc, c'est un quotidien. Je pense qu'on a les mêmes sacrifices, entre guillemets, même si j'aime pas trop utiliser ce mot-là, mais que les garçons. Mmh. Donc voilà, c'est un quotidien normal et on a de la chance de faire du foot. Enfin, je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est de se dire qu'on a de la chance de se lever le matin pour aller jouer au football et faire sa passion.
Ouais. Et sachant que vous ne pouvez pas faire d'autres activités, j'entends rémunérées, de travail à côté. L'emploi du temps ne le permet pas.
Non, après, il y aurait des petits moments de dispo, mais je pense que c'est hyper important aussi de se reposer. Et voilà, là, on peut en vivre. On aimerait toujours avoir plus, évidemment. Mais je pense que là, pour l'instant, c'est suffisant et on verra par la suite. Mais non, c'est très bien comme ça.
Et justement, de quoi en vivre, justement, c'est quoi un petit peu, par exemple, toi, la rémunération que tu peux avoir par rapport à des hommes? J'imagine c'est forcément bien moindre, mais c'est assez pour
100
vivre.
100K par mois.
Voilà, c'est assez quand même pour avoir une vie convenable. Enfin, c'est quoi un petit peu, toi, à titre un peu plus individuel là-dessus?
Par rapport à la moyenne du Havre
Ou la moyenne globale du championnat aussi, oui.
Bah après ça c'est là il y a beaucoup de différences entre... c'est ça je sais qu'il y avait un article qui était sorti dans un quotidien sportif là et qui disait que voilà à Lyon c'était quasiment 15 à 20 000 euros par mois la moyenne.
Toujani c'est même j'ai cru 50... voir 30 000 ou des choses comme ça
50 000 pour moi
50 donc ce qui reste des rémunérations parce qu'il faut comparer aussi on compare au foot masculin mais il faut comparer aussi aux autres sports bien entendu
et puis après aussi je pense qu'il faut pas comparer, on n'est pas dans la même économie. Donc aujourd'hui, effectivement, peut-être qu'on aimerait avoir des efforts un peu plus consentis pour que ça soit un peu plus confortable, mais faut pas non plus demander des salaires similaires aux garçons parce que l'économie qui est générée autour n'est pas du tout la même.
Et voilà. Mais grosso modo, on est sur une fourchette de 1000, 3 à 4000 pour la grande moyenne des jeux, pour la grande majorité des joueuses.
Entre les plus jeunes consignés et les plus anciennes.
Celles qui ont quelques saisons aussi de vécu comme Roman et après celles qui ont un CV encore plus important. Poursuivez-vous à Laetitia Philippe notamment, qui a une belle carrière derrière elle.
Non, mais effectivement, c'est pas.
On n'est pas 50 000.
On est dans une moyenne en fait sur notre championnat qui reste correct. Voilà. Où il y a quand même des efforts qui sont consentis par le club et comme le dit Roman, c'est vrai que chaque joueuse aimerait à chaque fois gagner un peu plus. On fait comme on peut avec l'économie que l'on a. Faut s'adapter. Par contre, on parlait sur les déplacements. Enfin, nous, on fera pas ça quoi, se déplacer sur une journée quand ça nécessite de s'en déplacer sur deux, voire peut-être trois, parce que l'horaire de 17h devient une contrainte des fois économique et de se déplacer sur 3 jours et non plus sur 2 jours. Mais on n'est pas quand même à ce stade en se disant qu'on va faire des économies sur la condition de la joueuse.
Mais on peut comprendre aussi, j'imagine que si le club de Dijon fait ça, c'est malheureusement contraint et forcé.
Et pourtant, ils font une belle saison. Parce qu'on a vu quand même quelques articles paraître récemment sur leur section féminine. Alors, je ne sais pas quel en sera le devenir, mais c'est assez dommageable parce qu'on avait vu la saison dernière une équipe comme Bordeaux avec cette relégation et finalement c'est un club aujourd'hui, une section féminine qui s'est écroulée Et on va dire qu'avec ces beaux résultats que fait Dijon cette saison, ça serait dommageable quand même de les voir en fait disparaître si jamais ils avaient des problèmes financiers. Alors peut-être que c'est aussi un pied de nez, hein, et un appel pour un rachat, on ne sait pas.
Hein. Ouais, ouais. c'était la fin de l'article que je lisais ce matin sur les déplacements où il disait qu'ils ouvriraient certainement à un investisseur s'il le fallait.
Et donc, c'est aussi un peu le revers de la médaille, même si le football féminin français s'est beaucoup développé lié au club masculin historiquement. Parce que Bordeaux, par exemple, si je ne me trompe pas, à la section féminine de Bordeaux, ça a été entre guillemets une reprise d'un club féminin qui existait à côté. C'est pas comme
à l'époque où. Ouais,
c'est pas comme le club du HAC qui a créé sa propre section. Il y a Guingamp, par exemple, avait absorbé, je crois, le Stade Briochin, si je ne me trompe pas, à l'époque. Mm-hmm. Bon, forcément, ça s'est beaucoup développé. Mais c'est lié aussi au football masculin. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit un peu plus tôt, le football masculin
est un peu. Alors, pas partout, et c'est peut-être aujourd'hui un tournant aussi avec cette ligue professionnelle. L'Olympique Lyonnais a cédé sa SASP féminine et à une présidente, à une actionnaire, et c'est totalement, les comptes aujourd'hui sont totalement indépendants.
Et donc c'est un club indépendant qui porte le même nom, mais c'est un club indépendant.
Tout à fait, petite faille en tout cas.
Non mais oui, tout à fait. Non, mais c'est bien de le préciser.
Mais,
du coup,
mais aujourd'hui, voilà, ça a été une volonté d'avoir quelqu'un qui avait l'ambition de développer sa section, qui n'a pas. Et il faut aussi le dire, les recherches ne sont pas les mêmes. Les investisseurs sont pas forcément les mêmes que chez les garçons. Les gens ne recherchent peut-être pas les mêmes choses. Mmh. Et ça a été cette envie de Michel Kang, qui d'ailleurs possède d'autres clubs.
Aux États-Unis notamment.
Aux États-Unis, en Angleterre, cherche peut-être à acheter un club espagnol aussi.
D'accord. Okay.
et voilà que c'est cette volonté en fait d'aider la femme à s'épanouir à travers le football. Donc voilà, c'est une conviction personnelle et il y a eu cette scission qui a été faite, même si l'académie est restée avec les garçons, mais cette SASP féminine a bien été sanée à son autogestion.
D'accord.
On va se quitter avec un petit tour des résultats de la formation, comme d'habitude, les résultats du week-end. Pour les jeunes pousses, honneur aux dames en U19, les filles ont arraché le nul 3 partout face à Lens. Belle remontada après avoir été menée 3-1, je crois, à la mi-temps. Prochain match à Lille, des nordistes qui ont chippé la deuxième place au Havraise au classement. Chez les garçons, match nul 2 partout pour Steven Goura et Paul Arnier, notamment avec la Régional 1. C'était face au leader Trouville, Deauville, les Ciel et Marines qui sont 4e avec un match en retard. À noter que le match était à domicile mais délocalisé de l'autre côté de l'eau,
à Deauville.
Donc, voilà,
pour les mêmes problèmes d'infrastructure qu'on mentionnait pour les filles, c'est un problème global de club et même de territoire, encore une fois. Il y a eu l'exemple du petit club de frileuse au Havre. Il y a eu tout un article notamment chez nos confrères de Paris Normandie. Ils ont un synthétique pour 500 ou 600 licenciés,
et qui n'est pas aux normes en plus,
et c'est purement la folie, quoi. Donc on a beau faire des miracles, des fois on est limité par nos terrains.
On continue avec les U19 garçons, cette fois-ci qui s'imposent 1-0 face au leader, le Racing Club de France, malgré avoir été réduit à 10 pendant une quarantaine de minutes. Les Havrais qui sont 7e, et enfin score nul et vierge pour les U17 face à Drancy. Le Havre est 6e, c'est ainsi que s'achève votre 5e débrief 100% AC spécial section féminine. On suivra évidemment avec attention votre prochain match, Roman. Ce sera vendredi à Fleury, coup d'envoi 19h avant la réception de l'OL le 23 novembre. On espère que ce sera une grande fête au stade Océane. Merci à toutes les deux d'avoir été à nos côtés. Et merci messieurs également. Je rappelle que toute l'actu du foot régional est à retrouver sur footnormand.fr et le sport en général, c'est-à-dire dans le courrier cauchois, avec cette semaine évidemment une double page sur le Vendée Globe et nos marins Charlie Dalin, Emmanuel Cousin. Je n'ai pas regardé le classement aujourd'hui pour voir si Charlie Dalin était toujours en tête.
Il me semble que c'est toujours le cas ce matin,
mais on espère en tout cas. Et puis de toute façon, le podcast, ça peut changer évidemment.
En fonction du moment où vous l'écoutez, peut-être que Charlie Dalin sera plus en tête, même si on lui souhaite de l'être toujours.
Vous pouvez l'écouter en tout cas sur tendanceouest.com, sur Deezer, sur Spotify et chez nos partenaires. Fin de partie, on se dit à dans 15 jours pour un nouveau numéro de votre débrief 100% hack.